Lettre 19 de Saint Preux à Julie.
Et vous ne seriez plus ma Julie ?
Ah, ne dites pas cela, digne et respectable femme, vous l'êtes plus que jamais. Vous êtes celle qui méritait les hommages de tout l'univers, vous êtes celle que j'adorais en commençant d'être sensible à la véritable beauté, vous êtes celle que je ne cesserai d'adorer même après ma mort. S'il reste encore en mon âme quelques souvenirs des attraits vraiment célestes qui l'enchantèrent durant ma vie. Cet effort de courage qui vous ramène à toute votre vertu ne vous rend que plus semblable à vous-même. Non, non, quelque supplice que j'éprouve à le sentir et le dire, jamais vous ne fûtes mieux ma Julie qu'au moment que vous renoncez à moi. Hélas, c'est en vous perdant que je vous ai retrouvé. Mais moi, dont le cœur frémit au seul projet de vous imiter, moi, tourmenté d'une passion criminelle, que je ne puis ni supporter ni vaincre, suis-je celui que je pensais être? Étais-je digne de vous plaire? Quel droit avais-je de vous importuner de mes plaintes et de mon désespoir? C'était bien à moi d'oser soupirer pour vous. Eh, qu'étais-je pour vous aimer? Insensé. Comme si je n'éprouvais pas assez d'humiliation sans en rechercher de nouvelles, pourquoi compter des différences que l'amour fit disparaître? Il m'élevait, il m'égalait à vous. Sa flamme me soutenait. Nos cœurs s'étaient confondus, tous leurs sentiments nous étaient communs et les miens partageaient la grandeur des vôtres. Me voilà donc retombé dans toute ma bassesse. Doux espoir, qui nourrissait mon âme et m'abusa si longtemps, te voilà donc éteint, sans retour. Et elle ne sera point à moi, je la perds pour toujours. Elle fait le bonheur d'un autre. Ô rage, ô tourment de l'enfer, infidèle, devais-tu jamais... Pardon, pardon, madame. Ayez pitié de mes fureurs. Ô Dieu, vous l'avez trop bien dit, elle n'est plus. Elle n'est plus, cette tendre Julie à qui je pouvais montrer tous les mouvements de mon cœur. Quoi, je me trouvais malheureux et je pouvais me plaindre. Elle pouvait m'écouter, j'étais malheureux. Que suis-je donc aujourd'hui? Non, je ne vous ferai plus rougir de vous ni de moi. C'en est fait, il faut renoncer l'un à l'autre. Il faut nous quitter. La vertu même en a dicté l'arrêt. Votre main l'a pu tracer. Oublions-nous. Oubliez-moi, du moins. Je l'ai résolu, je le jure. Je ne vous parlerai plus de moi. Oserais-je vous parler de vous encore et conserver le seul intérêt qui me reste au monde, celui de votre bonheur? En m'exposant l'état de votre âme, vous ne m'avez rien dit de votre sort. Ah! Pour le prix d'un sacrifice qui doit être senti de vous, daignez me tirer de ce doute insupportable. Julie, êtes-vous heureuse? Si vous l'êtes, donnez-moi dans mon désespoir la seule consolation dont je sois susceptible. Si vous ne l'êtes pas, par pitié, daignez me le dire, j'en serai moins longtemps malheureux. Plus je réfléchis sur l'aveu que vous méditez, moins j'y puis consentir. Et le même motif qui m'ôta toujours le courage de vous faire un refus doit me rendre inexorable sur celui-ci. Le sujet est de la dernière importance, et je vous exhorte à bien peser mes raisons. Premièrement, il me semble que votre extrême délicatesse vous jette à cet égard dans l'erreur, et je ne vois point sur quel fondement la plus austère vertu pourrait exiger une pareille confession. Nul engagement au monde ne peut avoir un effet rétroactif. On ne saurait s'obliger pour le passé, ni promettre ce qu'on n'a plus le pouvoir de tenir. Pourquoi devrait-on compte à celui à qui l'on s'engage de l'usage antérieur qu'on a fait de sa liberté et d'une fidélité qu'on ne lui a point promise? Ne vous y trompez pas, Julie. Ce n'est pas à votre époux, c'est à votre ami que vous avez manqué de foi. Avant la tyrannie de votre père, le ciel et la nature nous avaient unis l'un à l'autre. Vous avez fait, en formant d'autres nœuds, un crime que l'amour ni l'honneur, peut-être, ne pardonnent point, et c'est à moi seul de réclamer le bien que M. de Volmar m'a ravi. S'il est des cas où le devoir puisse exiger un pareil aveu, c'est quand le danger d'une rechute oblige une femme prudente à prendre des précautions pour s'en garantir. Mais votre lettre m'a plus éclairé que vous ne pensez sur vos vrais sentiments. En la lisant, j'ai senti dans mon propre cœur combien le vôtre eût abhorré de près, même au sein de l'amour, un engagement criminel dont l'éloignement nous ôtait l'horreur. Dès là que le devoir et l'honnêteté n'exigent pas cette confidence, la sagesse et la raison la défendent. Car c'est risqué sans nécessité,
ce qu'il y a de plus précieux dans le mariage, l'attachement d'un époux, la mutuelle confiance, la paix de la maison. Avez-vous assez réfléchi sur une pareille démarche? Connaissez-vous assez votre mari pour être sûr de l'effet qu'elle produira sur lui? Savez-vous combien il y a d'hommes au monde auxquels il n'en faudrait pas davantage pour concevoir une jalousie effrénée, un mépris invincible, et peut-être attenter au jour d'une femme? Il faut pour ce délicat examen avoir égard au temps, au lieu, au caractère. Dans le pays où je suis, de pareilles confidences sont sans aucun danger, et ceux qui traitent si légèrement la foi conjugale ne sont pas gens à faire une si grande affaire des fautes qui précédèrent l'engagement. Sans parler des raisons qui rendent quelquefois ces aveux indispensables et qui n'ont pas eu lieu pour vous, je connais des femmes assez médiocrement estimables qui se sont fait, à peu de risques, un mérite de cette sincérité, peut-être pour obtenir à ce prix une confiance dont elles puissent abuser au besoin. Mais dans des lieux où la sainteté du mariage est plus respectée, dans des lieux où ce lien sacré forme une union solide et où les maris ont un véritable attachement pour leurs femmes, ils leur demandent un compte plus sévère d'elles-mêmes. Ils veulent que leur cœur n'ait connu que pour eux un sentiment tendre, usurpant un droit qu'ils n'ont pas. Ils exigent qu'elles soient à eux seuls avant de leur appartenir, et ne pardonnent pas plus l'abus de la liberté qu'une infidélité réelle. Croyez-moi, vertueuse Julie, défiez-vous d'un zèle sans fruit et sans nécessité. Gardez un secret dangereux que rien ne vous oblige à révéler, dont la communication peut vous perdre, et n'est d'aucun usage à votre époux. S'il est digne de cet aveu, son âme en sera contristée, et vous l'aurez affligé sans raison. S'il n'en est pas digne, pourquoi voulez-vous donner un prétexte à ses torts envers vous? Que savez-vous si votre vertu, qui vous a soutenu contre les attaques de votre cœur, vous soutiendrait encore contre les chagrins domestiques toujours renaissants? N'empirez point volontairement vos maux, de peur qu'ils ne deviennent plus forts que votre courage, et que vous ne retombiez à force de scrupules dans un état pire que celui dont vous avez eu peine à sortir. La sagesse est la base de toute vertu. Consultez-la, je vous en conjure, dans la plus importante occasion de votre vie. Et si ce fatal secret vous pèse si cruellement, attendez du moins pour vous en décharger que le temps, les années, vous donnent une connaissance plus parfaite de votre époux, et ajoute dans son cœur, à l'effet de votre beauté, l'effet plus sûr encore des charmes de votre caractère et la douce habitude de les sentir. Enfin, quand ces raisons, toutes solides qu'elles sont, ne vous persuaderaient pas, ne fermez point l'oreille à la voix qui vous les expose. Ô Julie, écoutez un homme capable de quelques vertus et qui mérite au moins de vous quelques sacrifices par celui qu'il vous fait aujourd'hui. Il faut finir cette lettre. Je ne pourrais, je le sens, m'empêcher d'y reprendre un ton que vous ne devez plus entendre. Julie, il faut vous quitter. Si jeune encore, il faut déjà renoncer au bonheur. Oh, temps qui ne doit plus revenir, temps passé pour toujours, source de regrets éternels. Plaisir, transport, douce extase, moment délicieux, ravissement céleste, mes amours, mes uniques amours, honneur et charme de ma vie. Adieu pour jamais.
Lettre 20 de Julie à Saint-Preux.
Vous me demandez si je suis heureuse. Cette question me touche, et en la faisant, vous m'aidez à y répondre. Car, bien loin de chercher l'oubli dont vous parlez, j'avoue que je ne saurais être heureuse si vous cessiez de m'aimer. Mais je le suis à tous égards, et rien ne manque à mon bonheur que le vôtre. Si j'ai évité dans ma lettre précédente de parler de Monsieur de Volmar, je l'ai fait par ménagement pour vous. Je connaissais trop votre sensibilité pour ne pas craindre d'aigrir vos peines, mais votre inquiétude sur mon sort m'obligeant à vous parler de celui dont il dépend, je ne puis vous en parler que d'une manière digne de lui, comme il convient à son épouse et à une amie de la vérité. Monsieur de Volmar a près de 50 ans. Sa vie unie, réglée et le calme des passions lui ont conservé une constitution si saine et un air si frais qu'il paraît à peine en avoir 40. Et il n'a rien d'un âge avancé que l'expérience et la sagesse. Sa physionomie est noble et prévenante, son abord simple et ouvert, ses manières sont plus honnêtes qu'empressées, il parle peu et d'un grand sens, mais sans affecter ni précision ni sentence. Il est le même pour tout le monde, ne cherche et ne fuit personne, et n'a jamais d'autre préférence que celle de la raison. Malgré sa froideur naturelle, son cœur, secondant les intentions de mon père, crut sentir que je lui convenais, et pour la première fois de sa vie, il prit un attachement. Ce goût modéré, mais durable, s'est si bien réglé sur les bienséances, et s'est maintenu dans une telle égalité, qu'il n'a pas eu besoin de changer de ton en changeant d'état, et que, sans blesser la gravité conjugale, il conserve avec moi depuis son mariage les mêmes manières qu'il avait auparavant. Je ne l'ai jamais vu ni gai, ni triste, mais toujours content. Jamais il ne me parle de lui, rarement de moi. Il ne me cherche pas, mais il n'est pas fâché que je le cherche, et me quitte peu volontiers. Il ne rit point. Il est sérieux, sans donner envie de l'être. Au contraire, son abord serein semble m'inviter à l'enjouement. Et comme les plaisirs que je goûte sont les seuls auxquels il paraît sensible, une des attentions que je lui dois est de chercher à m'amuser. En un mot, il veut que je sois heureuse. Il ne me le dit pas, mais je le vois, et vouloir le bonheur de sa femme, n'est-ce pas l'avoir obtenu ? Avec quelques soins que j'ai pu l'observer, je n'ai su lui trouver de passion d'aucune espèce que celle qu'il a pour moi. Encore cette passion est-elle si égale et si tempérée qu'on dirait qu'il n'aime qu'autant qu'il veut aimer, et qu'il ne le veut qu'autant que la raison le permet. Il est réellement ce que le Milord Edward croit être, en quoi je le trouve bien supérieur à tous nos autres gens à sentiments qui nous admirons tant nous-mêmes, car le cœur nous trompe en mille manières et n'agit que par un principe toujours suspect. Mais la raison n'a d'autre fin que ce qui est bien. Ses règles sont sûres, claires, faciles dans la conduite de la vie, et jamais elle ne s'égare dans d'inutiles spéculations qui ne sont pas faites pour elle. Le plus grand goût de M. de Volmar est d'observer. Il aime à juger des caractères des hommes et des actions qu'il voit faire. Il en juge avec une profonde sagesse et la plus parfaite impartialité. Si un ennemi lui faisait du mal, il en discuterait les motifs et les moyens aussi paisiblement que s'il s'agissait d'une chose indifférente. Je ne sais comment il a entendu parler de vous, mais il m'en a parlé plusieurs fois lui-même avec beaucoup d'estime, et je le connais incapable de déguisement. J'ai cru remarquer quelquefois qu'il m'observait durant ses entretiens. Mais il y a grande apparence que cette prétendue remarque n'est que le secret reproche d'une conscience alarmée. Quoi qu'il en soit, j'ai fait en cela mon devoir. La crainte ni la honte ne m'ont point inspiré de réserve injuste, et je vous ai rendu justice auprès de lui, comme je la lui rends auprès de vous. J'oubliais de vous parler de nos revenus et de leur administration. Le débris des biens de M. de Volmar, joint à celui de mon père, qui ne s'est réservé qu'une pension, lui fait une fortune honnête et modérée, dont il use noblement et sagement, en maintenant chez lui non l'incommode et vaine appareil du luxe, mais l'abondance, les véritables commodités de la vie et le nécessaire chez ses voisins indigents. L'ordre qu'il a mis dans sa maison est l'image de celui qui règne au fond de son âme et semble imiter dans un petit ménage l'ordre établi dans le gouvernement du monde. On n'y voit ni cette inflexible régularité qui donne plus de gêne que d'avantage et n'est supportable qu'à celui qui l'impose, ni cette confusion malentendue qui, pour trop avoir, ôte l'usage de tout. On y reconnaît toujours la main du maître, et l'on ne la sent jamais. Il a si bien ordonné le premier arrangement qu'à présent tout va tout seul et qu'on jouit à la fois de la règle et de la liberté. Voilà, mon bon ami, une idée abrégée, mais fidèle, du caractère de M. de Volmar, autant que je l'ai pu connaître depuis que je vis avec lui. Tel il m'a paru le premier jour, tel il me paraît le dernier, sans aucune altération, ce qui me fait espérer que je l'ai bien vu et qu'il ne me reste plus rien à découvrir, car je n'imagine pas qu'il pût se montrer autrement sans y perdre. Sur ce tableau, vous pouvez d'avance vous répondre à vous-même, et il faudrait me mépriser beaucoup pour ne pas me croire heureuse avec tant de sujets de lettres. Ce qui m'a longtemps abusée, et qui peut-être vous abuse encore, c'est la pensée que l'amour est nécessaire pour former un heureux mariage. Mon ami, c'est une erreur. L'honnêteté, la vertu, de certaines convenances, moins de conditions et d'âge que de caractères et d'humeurs, suffisent entre deux époux, ce qui n'empêche point qu'il ne résulte de cette union un attachement très tendre qui, pour n'être pas précisément de l'amour, n'en est pas moins doux et n'en est que plus durable. L'amour est accompagné d'une inquiétude continuelle de jalousie ou de privation, peu convenable au mariage, qui est un état de jouissance et de paix. On ne s'épouse point pour penser uniquement l'un à l'autre, mais pour remplir conjointement les devoirs de la vie civile, gouverner prudemment la maison, bien élever ses enfants. Les amants ne voient jamais qu'eux, ne s'occupent incessamment que d'eux, et la seule chose qu'ils sachent faire est de s'aimer. Ce n'est pas assez pour des époux, qui ont tant d'autres soins à remplir. Il n'y a point de passion qui nous fasse une si forte illusion que l'amour. On prend sa violence pour un signe de sa durée, le cœur surchargé d'un sentiment si doux l'étant pour ainsi dire sur l'avenir, et tant que cet amour dure, on croit qu'il ne finira point. Mais au contraire, c'est son ardeur même qui le consume. Il s'use avec la jeunesse, il s'efface avec la beauté, il s'éteint sous les glaces de l'âge. Et depuis que le monde existe, on n'a jamais vu deux amants en cheveux blancs soupirer l'un pour l'autre. On doit donc compter qu'on cessera de s'adorer tôt ou tard. Alors, l'idole qu'on servait détruite, on se voit réciproquement tel qu'on est. On cherche avec étonnement l'objet qu'on aima. Ne le trouvant plus, on se dépite contre celui qui reste. Et souvent l'imagination le défigure autant qu'elle l'avait paré. Il y a peu de gens, dit La Rochefoucauld, qui ne soient honteux de s'être aimés quand ils ne s'aiment plus. Combien alors il est à craindre que l'ennui ne succède à des sentiments trop vifs, que leur déclin, sans s'arrêter à l'indifférence, ne passe jusqu'au dégoût, qu'on ne se trouve enfin tout à fait rassasié l'un de l'autre, et que, pour s'être trop aimé amant, on en vienne à se haïr époux. Mon cher ami, vous m'avez toujours paru bien aimable, beaucoup trop pour mon innocence et pour mon repos, mais je ne vous ai jamais vu qu'amoureux. Que sais-je ce que vous seriez devenu cessant de l'être ? L'amour éteint vous eût toujours laissé la vertu, je l'avoue, mais en est-ce assez pour être heureux dans un lien que le cœur doit serrer? Et combien d'hommes vertueux ne laissent pas d'être des maris insupportables? Sur tout cela, vous en pouvez dire autant de moi. Pour monsieur de Volmar, nulle illusion ne nous prévient l'un pour l'autre. Nous nous voyons tels que nous sommes. Le sentiment qui nous joint n'est point l'aveugle transport des cœurs passionnés, mais l'immuable et constant attachement de deux personnes honnêtes et raisonnables, qui, destinées à passer ensemble le reste de leurs jours, sont contentes de leur sort et tâchent de se le rendre doux l'une à l'autre. Il semble que, quand on nous eût formés exprès pour nous unir, on aurait pu réussir mieux. S'il avait le cœur aussi tendre que moi, il serait impossible que tant de sensibilité de part et d'autre ne se heurtât quelquefois, et qu'il n'en résultât des querelles. Si j'étais aussi tranquille que lui, trop de froideur régnerait entre nous et rendrait la société moins agréable et moins douce. S'il ne m'aimait point, nous vivrions mal ensemble. S'il m'eût trop aimé, il m'eût été importun. Chacun des deux est précisément ce qu'il faut à l'autre. Il m'éclaire et je l'anime. Nous en valons mieux réunis et il semble que nous soyons destinés à ne faire entre nous qu'une seule âme dont il est l'entendement et moi la volonté. Il n'y a pas jusqu'à son âge un peu avancé qui ne tourne au commun avantage. Car, avec la passion dont j'étais tourmentée, il est certain que s'il eût été plus jeune, je l'aurais épousé avec plus de peine encore, et cet excès de répugnance eût peut-être empêché l'heureuse révolution qui s'est faite en moi. Mon ami, le ciel éclaire la bonne intention des pères et récompense la docilité des enfants. À Dieu ne plaise que je veuille insulter à vos déplaisirs. Le seul désir de vous rassurer pleinement sur mon sort me fait ajouter ce que je vais vous dire. Quand avec les sentiments que j'eus ci-devant pour vous et les connaissances que j'ai maintenant, je serai libre encore et maîtresse de me choisir un mari, je prends à témoin de ma sincérité ce Dieu qui daigne m'éclairer et qui lit au fond de mon cœur. Ce n'est pas vous que je choisirai, c'est monsieur de Volmar. Il importe peut-être à votre entière guérison que j'achève de vous dire ce qui me reste sur le cœur. Monsieur de Volmar est plus âgé que moi. Si pour me punir de mes fautes, le ciel m'ôtait le digne époux que j'ai si peu mérité, ma ferme résolution est de n'en prendre jamais un autre. S'il n'a pas eu le bonheur de trouver une fille chaste, il laissera du moins une chaste veuve. Vous me connaissez trop bien pour croire qu'après vous avoir fait cette déclaration, je sois femme à m'en rétracter jamais. Ce que j'ai dit pour lever vos doutes peut servir encore à résoudre en partie vos objections contre l'aveu que je crois devoir faire à mon mari. Il est trop sage pour me punir d'une démarche humiliante que le repentir seul peut m'arracher, et je ne suis pas plus incapable d'user de la ruse des dames dont vous parlez qu'il l'est de m'en soupçonner. Quant à la raison sur laquelle vous prétendez que cet aveu n'est pas nécessaire, elle est certainement un sophisme, car quoiqu'on ne soit tenu à rien envers un époux qu'on n'a pas encore, cela n'autorise point à se donner à lui pour autre chose que ce qu'on est. Je l'avais senti, même avant de me marier, et si le serment extorqué par mon père m'empêcha de faire à cet égard mon devoir, je n'en fus que plus coupable, puisque c'est un crime de faire un serment injuste et un second de le tenir. Mais j'avais une autre raison que mon cœur n'osait s'avouer, et qui me rendait beaucoup plus coupable encore. Grâce au ciel, elle ne subsiste plus. Une considération plus légitime et d'un plus grand poids est le danger de troubler inutilement le repos d'un honnête homme qui tire son bonheur de l'estime qu'il a pour sa femme. Il est sûr qu'il ne dépend plus de lui de rompre le nœud qui nous unit, ni de moi d'en avoir été plus digne. Ainsi, je risque par une confidence indiscrète de l'affliger à pure perte, sans tirer d'autre avantage de ma sincérité que de décharger mon cœur d'un secret funeste qui me pèse cruellement. J'en serai plus tranquille, je le sens, après le lui avoir déclaré. Mais lui, peut-être, le sera-t-il moins, et ce serait bien mal réparer mes torts que de préférer mon repos au sien. Que ferai-je donc dans le doute où je suis? En attendant que le ciel m'éclaire mieux sur mes devoirs, je suivrai le conseil de votre amitié. Je garderai le silence, je tairai mes fautes à mon époux, et je tâcherai de les effacer par une conduite qui puisse un jour en mériter le pardon. Pour commencer une réforme aussi nécessaire, trouvez bon, mon ami, que nous cessions désormais tout commerce entre nous. Si Monsieur de Volmar avait reçu ma confession, il déciderait jusqu'à quel point nous pouvons nourrir les sentiments de l'amitié qui nous lie, et nous en donner les innocents témoignages. Mais, puisque je n'ose le consulter là-dessus, j'ai trop appris à mes dépens combien nous peuvent égarer les habitudes les plus légitimes en apparence. Il est temps de devenir sage. Malgré la sécurité de mon cœur, je ne veux plus être juge en ma propre cause, ni me livrer, étant femme, à la même présomption qui me perdit étant fille. Voici la dernière lettre que vous recevrez de moi. Je vous supplie aussi de ne plus m'écrire. Cependant, comme je ne cesserai jamais de prendre à vous le plus tendre intérêt, et que ce sentiment est aussi pur que le jour qui m'éclaire, je serai bien aise de savoir quelquefois de vos nouvelles et de vous voir parvenir au bonheur que vous méritez. Vous pourrez de temps à autre écrire à Madame d'Orbe dans les occasions où vous aurez quelque événement intéressant à nous apprendre. J'espère que l'honnêteté de votre âme se peindra toujours dans vos lettres. D'ailleurs, ma cousine est vertueuse et sage pour ne me communiquer que ce qu'il me conviendra de voir et pour supprimer cette correspondance si vous étiez capable d'en abuser. Adieu, mon cher et bon ami. Si je croyais que la fortune pût vous rendre heureux, je vous dirais « courez à la fortune ». Mais peut-être avez-vous raison de la dédaigner avec tant de trésors pour vous passer d'elle. J'aime mieux vous dire, courez à la félicité. C'est la fortune du sage. Nous avons toujours senti qu'il n'y en avait point sans la vertu. Mais prenez garde que ce mot de vertu trop abstrait n'ait plus d'éclat que de solidité et ne soit un nom de parade qui sert plus à éblouir les autres qu'à nous contenter nous-mêmes. Je frémis quand je songe que des gens qui portaient l'adultère au fond de leur cœur osait parler de vertu. Savez-vous bien ce que signifiait pour nous un terme si respectable et si profané, tandis que nous étions engagés dans un commerce criminel? C'était cet amour forcené dont nous étions embrasés l'un et l'autre, qui déguisait ses transports sous ce saint enthousiasme pour nous les rendre encore plus chers et nous abuser plus longtemps. Nous étions faits, j'ose le croire, pour suivre et chérir la véritable vertu, mais nous nous trompions en la cherchant, et ne suivions qu'un vain fantôme. Il est temps que l'illusion cesse, il est temps de revenir d'un trop long égarement. Mon ami, ce retour ne vous sera pas difficile. Vous avez votre guide en vous-même, vous l'avez pu négliger, mais vous ne l'avez jamais rebuté. Votre âme est saine, elle s'attache à tout ce qui est bien, et si quelquefois il lui échappe, c'est qu'elle n'a pas usé de toute sa force pour s'y tenir. Rentrez au fond de votre conscience et cherchez si vous n'y retrouveriez point quelques principes oubliés qui serviraient à mieux ordonner toutes vos actions, à les lier plus solidement entre elles et avec un objet commun. Ce n'est pas assez, croyez-moi, que la vertu soit la base de votre conduite si vous n'établissez cette base même sur un fondement inébranlable. Souvenez-vous de ces Indiens qui font porter le monde sur un grand éléphant et puis l'éléphant sur une tortue. Et quand on leur demande sur quoi porte la tortue, ils ne savent plus que dire. je vous conjure de faire quelque attention au discours de votre ami, et de choisir pour aller au bonheur une route plus sûre que celle qui nous a si longtemps égarés. Je ne cesserai de demander au ciel, pour vous et pour moi, cette félicité pure, et ne serai contente qu'après l'avoir obtenue pour tous les deux. Ah, si jamais nos cœurs se rappellent malgré nous les erreurs de notre jeunesse, faisons au moins que le retour qu'elles auront produit en autorise le souvenir, et que nous puissions dire avec cet ancien « Hélas, nous périssions si nous n'eussions péri. » Ici finissent les sermons de la prêcheuse. Elle aura désormais assez à faire à se prêcher elle-même. Adieu, mon aimable ami. Adieu pour toujours. Ainsi l'ordonne l'inflexible devoir. Mais croyez que le cœur de Julie ne s'est point oublié ce qui lui fut cher. Mon Dieu, que fais-je? Vous le verrez trop à l'état de ce papier. Ah, n'est-il pas permis de s'attendrir en disant à son ami le dernier adieu?
Lettre 21 de Saint-Preux à Milord Édouard.
Lettre 21 à Milord Édouard. Oui, Milord, il est vrai, mon âme est oppressée du poids de la vie. Depuis longtemps, elle m'est à charge. J'ai perdu tout ce qui pouvait me la rendre chère. Il ne me reste que les ennuis. Mais on dit qu'il ne m'est pas permis d'en disposer sans l'ordre de celui qui me l'a donné. Je sais aussi qu'elle vous appartient à plus d'un titre. Vos soins me l'ont sauvée deux fois, et vos bienfaits me la conservent sans cesse. Je n'en disposerai jamais que je ne sois sûr de le pouvoir faire sans crime, ni tant qu'il me restera la moindre espérance de la pouvoir employer pour vous. Vous disiez que je vous étais nécessaire. Pourquoi me trompiez-vous? Depuis que nous sommes à Londres, loin que vous songiez à m'occuper de vous, vous ne vous occupez que de moi. Que vous prenez de soins superflus. Milord, vous le savez, je hais le crime encore plus que la vie. J'adore l'être éternel. Je vous dois tout. Je vous aime. Je ne tiens qu'à vous sur la terre. L'amitié, le devoir, ils peuvent enchaîner un infortuné. Des prétextes et des sophismes ne l'y retiendront point. Éclairez ma raison, parlez à mon cœur. Je suis prêt à vous entendre. Mais souvenez-vous que ce n'est point le désespoir qu'on abuse. Vous voulez qu'on raisonne? Eh bien, raisonnons. Vous voulez qu'on proportionne la délibération à l'importance de la question qu'on agite? J'y consens. Cherchons la vérité. Paisiblement, tranquillement, discutons la proposition générale comme s'il s'agissait d'un autre. Robeck fit l'apologie de la mort volontaire avant de se la donner. Je ne veux pas faire un livre à son exemple, je ne suis pas fort content du sien, mais j'espère imiter son sang-froid dans cette discussion. J'ai longtemps médité sur ce grave sujet. Vous devez le savoir, car vous connaissez mon sort, et je vis encore. Plus j'y réfléchis, plus je trouve que la question se réduit à cette proposition fondamentale. Chercher son bien et fuir son mal en ce qui n'offense point autrui. C'est le droit de la nature. Quand notre vie est un mal pour nous et n'est un bien pour personne, il est donc permis de s'en délivrer. S'il y a dans le monde une maxime évidente et certaine, je pense que c'est celle-là. Et si l'on venait à bout de la renverser, il n'y a point d'action humaine dont on ne pût faire un crime. Que disent là-dessus nos sophistes? Premièrement, ils regardent la vie comme une chose qui n'est pas à nous, parce qu'elle nous a été donnée. Mais c'est précisément parce qu'elle nous a été donnée qu'elle est à nous. Dieu ne leur a-t-il pas donné deux bras? Cependant, quand ils craignent la gangrène, ils s'en font couper un, et tous les deux, s'il le faut. La parité est exacte. Pour qui croit à l'immortalité de l'âme. Car si je sacrifie mon bras à la conversation d'une chose plus précieuse, qui est mon corps, je sacrifie mon corps à la conservation d'une chose plus précieuse, qui est mon bien-être. Si tous les dons que le ciel nous a faits sont naturellement des biens pour nous, ils ne sont que trop sujets à changer de nature. Et il y ajouta la raison pour nous apprendre à les discerner. Si cette règle ne nous autorisait pas à choisir les uns et rejeter les autres, quel serait son usage parmi les hommes? Cette objection si peu solide, il la retourne de mille manières. Il regarde l'homme vivant sur la terre comme un soldat mis en faction. « Dieu, disent-ils, t'a placé dans ce monde, pourquoi en sors-tu sans son congé ?»« Mais toi-même, il t'a placé dans ta ville, pourquoi en sors-tu sans son congé ? Le congé n'est-il pas dans le mal-être ? Et quelque lieu qu'il me place, soit dans un corps, soit sur la terre, c'est pour rester autant que j'y suis bien, et pour en sortir dès que j'y suis mal. Voilà la voie de la nature, et la voie de Dieu. Il faut attendre l'ordre, j'en conviens, mais quand je meurs naturellement, Dieu ne m'ordonne pas de quitter la vie, il me l'ôte. Et c'est en me la rendant insupportable qu'il m'ordonne de la quitter. Dans le premier cas, je résiste de toute ma force. Dans le second, j'ai le mérite d'obéir. Concevez-vous qu'il y ait des gens assez injustes pour taxer la mort volontaire de rébellion contre la Providence, comme si l'on voulait se soustraire à ses lois ? Ce n'est point pour s'y soustraire qu'on cesse de vivre, c'est pour les exécuter. Quoi ? Dieu n'a-t-il de pouvoir que sur mon corps ? Est-il quelque lieu dans l'univers où quelque être existant ne soit pas sous sa main ? Et agira-t-il moins immédiatement sur moi quand ma substance épurée ne sera plus une, mais plus semblable à la sienne ? Non. Sa justice et sa bonté me font mon espoir. Et si je croyais que la mort pût me soustraire à sa puissance, je ne voudrais plus mourir. C'est un des sophismes du Phédon, rempli d'ailleurs de vérités sublimes. « Si ton esclave se tuait, dit Socrate à Cébès, ne le punirais-tu pas, s'il t'était possible, pour t'avoir injustement privé de ton bien ?»« Bon Socrate, que nous dites-vous ? N'appartient-on plus à Dieu quand on est mort ? Ce n'est point cela du tout, mais il fallait dire... Si tu charges ton esclave d'un vêtement qui le gêne dans le service qu'il te doit, le puniras-tu d'avoir quitté cet habit pour mieux faire son service ? La grande erreur est de donner trop d'importance à la vie, comme si notre être en dépendait, et qu'après la mort, on ne fût plus rien. Notre vie n'est rien aux yeux de Dieu. Elle n'est rien aux yeux de la raison. Elle ne doit rien être au nôtre. Et quand nous laissons notre corps, nous ne faisons que poser un vêtement incommode. Est-ce la peine d'en faire un si grand bruit ? Milord, ces déclamateurs ne sont point de bonne foi. Absurdes et cruels dans leur raisonnement, ils aggravent le prétendu crime, comme si l'on s'ôtait l'existence, et le punissent comme si l'on existait toujours. Quant au Phédon, qui leur a fourni le seul argument précieux qu'ils aient jamais employé, cette question n'est traitée que très légèrement et comme en passant. Socrate, condamné par un jugement inique à perdre la vie dans quelques heures, n'avait pas besoin d'examiner bien attentivement s'il lui était permis d'en disposer, en supposant qu'il ait tenu réellement les discours que Platon lui fait tenir. Croyez-moi, Milord, il les eut médités avec plus de soin dans l'occasion de les mettre en pratique, et la preuve qu'on ne peut tirer de cet immortel ouvrage aucune bonne objection contre le droit de disposer de sa propre vie, c'est que Caton le lut par deux fois tout entier, la nuit même qu'il quitta la terre. Ces mêmes sophistes demandent si jamais la vie peut être un mal. En considérant cette foule d'erreurs, de tourments et de vices dont elle est remplie, on serait bien plus tenté de demander si jamais elle fut un bien. Le crime assiège sans cesse l'homme le plus vertueux. Chaque instant qu'il vit, il est prêt à devenir la proie du méchant ou méchant lui-même. Combattre et souffrir, voilà son sort dans ce monde. Faire mal et souffrir. Voilà celui du malhonnête homme. Dans tout le reste, ils diffèrent entre eux. Ils n'ont rien en commun que les misères de la vie. S'il vous fallait des autorités et des faits, je vous citerais des oracles, des réponses de sages, des actes de vertu récompensés par la mort. Laissons tout cela, Milord. C'est à vous que je parle. Et je vous demande quelle est ici-bas la principale occupation du sage, si ce n'est de se concentrer, pour ainsi dire, au fond de son âme et de s'efforcer d'être mort durant sa vie. Le seul moyen qu'ait trouvé la raison pour nous soustraire aux maux de l'humanité n'est-il pas de nous détacher des objets terrestres de tout ce qu'il y a de mortel en nous, de nous recueillir au-dedans de nous-mêmes, de nous élever aux sublimes contemplations ? Et si nos passions et nos erreurs font nos infortunes, Avec quelle ardeur devons-nous soupirer après un état qui nous délivre des unes et des autres? Que font ces hommes sensuels qui multiplient si indiscrètement leur douleur par leur volupté? Ils anéantissent, pour ainsi dire, leur existence à force de l'étendre sur la terre. Ils aggravent le poids de leurs chaînes par le nombre de leurs attachements. Ils n'ont point de jouissance qui ne leur prépare mille amères privations. Plus ils sentent et plus ils souffrent, plus ils s'enfoncent dans la vie et plus ils sont malheureux. Mais qu'en général ce soit, si l'on veut, un bien pour l'homme de ramper tristement sur la terre, j'y consens. Je ne prétends pas que tout le genre humain doive s'immoler d'un commun accord, ni faire un vaste tombeau du monde. Il est des infortunés trop privilégiés pour suivre la route commune, et pour qui le désespoir et les amères douleurs sont le passeport de la nature. C'est à ceux-là qu'il serait aussi insensé de croire que leur vie est un bien, qu'il l'était au sophiste Posidonius, tourmenté de la goutte, de nier qu'elle fût un mal. Tant qu'il nous est bon de vivre, nous le désirons fortement, et il n'y a que les sentiments des maux extrêmes qui puissent vaincre en nous ce désir. Car nous avons tous reçu de la nature une très grande horreur de la mort, et cette horreur déguise à nos yeux les misères de la condition humaine. On supporte longtemps une vie pénible et douloureuse avant de se résoudre à la quitter, mais quand une fois l'ennui de vivre l'emporte sur l'horreur de mourir, alors la vie est évidemment un grand mal, et l'on ne peut s'en délivrer trop tôt. Ainsi, quoiqu'on ne puisse exactement assigner le point où elle cesse d'être un bien, on sait très certainement, au moins, qu'elle est un mal longtemps avant de nous le paraître. Et chez tout homme sensé, le droit d'y renoncer en précède toujours de beaucoup la tentation. Ce n'est pas tout. Après avoir nié que la vie puisse être un mal, pour nous ôter le droit de nous en défaire, ils disent ensuite qu'elle est un mal, pour nous reprocher de ne la pouvoir endurer. Selon eux, c'est une lâcheté de se soustraire à ses douleurs et ses peines. Et il n'y a jamais que des poltrons qui se donnent la mort. Ô Rome, conquérante du monde, quelle troupe de poltrons t'en donna l'Empire? Carie, Éponine, Lucrèce, soit dans le nombre, elles étaient femmes, mais Brutus, mais Cassius, et toi qui partageais avec les dieux les respects de la terre étonnée, grand et divin Caton, toi dont l'image auguste et sacrée animait les Romains d'un saint zèle et faisait frémir les tyrans. Tes fiers admirateurs ne pensaient pas qu'un jour, dans le coin poudreux d'un collège, de vils rhéteurs prouveraient que tu ne fus qu'un lâche pour avoir refusé au crime heureux l'hommage de la vertu dans les fers. Force et grandeur des écrivains modernes, que vous êtes sublimes, et qu'ils sont intrépides la plume à la main. Mais dites-moi, braves et vaillants héros, qui vous sauvez si courageusement d'un combat pour supporter plus longtemps la peine de vivre, quand un tison brûlant vient à tomber sur cette éloquente main, pourquoi la retirez-vous si vite? Quoi? Vous avez la lâcheté de n'oser soutenir l'ardeur du feu? Rien, dites-vous, ne m'oblige à supporter le tison. Et moi, qui m'oblige à supporter la vie? La génération d'un homme a-t-elle coûté plus à la Providence que celle d'un fétu? Et l'une et l'autre n'est-elle pas également son ouvrage? Sans doute il y a du courage à souffrir avec constance les maux qu'on ne peut éviter, mais il n'y a qu'un insensé qui souffre volontairement ceux dont il ne peut s'exempter sans mal faire, et c'est souvent un très grand mal d'endurer un mal sans nécessité. Celui qui ne sait pas se délivrer d'une vie douloureuse par une prompte mort ressemble à celui qui aime mieux laisser envenimer une plaie que la livrer au fer salutaire d'un chirurgien. Viens, respectable Parisot, coupe-moi cette jambe qui me ferait périr. Je te verrai faire sans sourciller et me laisserai traiter de lâche par le brave qui voit tomber la sienne en pourriture, faute d'oser soutenir la même opération. J'avoue qu'il est des devoirs envers autrui qui ne permettent pas à tout homme de disposer de lui-même. Mais en revanche, combien en est-il qu'il l'ordonne? Qu'un magistrat à qui tient le salut de la patrie, qu'un père de famille qui doit la subsistance à ses enfants, qu'un débiteur insolvable qui ruinerait ses créanciers, se dévoue à leurs devoirs, quoi qu'il arrive, que mille autres relations civiles et domestiques forcent un honnête homme infortuné de supporter le malheur de vivre pour éviter le malheur plus grand d'être injuste, est-il permis pour cela, dans des cas tout différents, de conserver aux dépens d'une foule de misérables une vie qui n'est utile qu'à celui qui n'ose mourir. « Tue-moi, mon enfant, » dit le sauvage décrépit à son fils qui le porte et fléchit sous le poids. « Les ennemis sont là. Va combattre avec tes frères, va sauver tes enfants, et n'expose pas ton père à tomber vif entre les mains de ceux dont il mangea les parents. » Quand la faim, les maux, la misère, ennemis domestiques pires que les sauvages, permettrait à un malheureux estropié de consommer dans son lit le pain d'une famille qui peut à peine en gagner pour elle, celui qui ne tient à rien, celui que le ciel réduit à vivre seul sur la terre, celui dont la malheureuse existence ne peut produire aucun bien, pourquoi n'aurait-il pas au moins le droit de quitter un séjour où ses plaintes sont importunes et ses maux sans utilité? Pesez ces considérations, Milord, rassemblez toutes ces raisons, et vous trouverez qu'elles se réduisent au plus simple des droits de la nature qu'un homme sensé ne mit jamais en question. En effet, pourquoi serait-il permis de se guérir de la goutte et non de la vie? L'une et l'autre ne nous viennent-elles pas de la même main? S'il est pénible de mourir, qu'est-ce à dire? Les drogues font-elles plaisir à prendre? Combien de gens préfèrent la mort à la médecine? Preuve que la nature répugne à l'une et à l'autre. Qu'on me montre donc comment il est plus permis de se délivrer d'un mal passager en faisant des remèdes que d'un mal incurable en s'ôtant la vie. Et comment on est moins coupable d'user de quinquina pour la fièvre que d'opium pour la pierre. Si nous regardons à l'objet, l'un et l'autre est de nous délivrer du mal-être. Si nous regardons aux moyens, l'un et l'autre est également naturel. Si nous regardons à la répugnance, il y en a également des deux côtés. Si nous regardons à la volonté du maître, quel mal veut-on combattre qu'il ne nous ait pas envoyé? À quelle douleur veut-on se soustraire qui ne nous vienne pas de sa main? Quelle est la borne où finit sa puissance et où l'on peut légitimement résister? Ne nous est-il donc permis de changer l'état d'aucune chose parce que tout ce qui est comme il l'a voulu? Faut-il ne rien faire en ce monde de peur d'enfreindre ses lois et, quoi que nous fassions, pouvons-nous jamais les enfreindre? Non, Milord, la vocation de l'homme est plus grande et plus noble. Dieu ne l'a point animé pour rester immobile dans un quiétisme éternel. Mais il lui a donné la liberté pour faire le bien, la conscience pour le vouloir, et la raison pour le choisir. Il l'a constitué seul juge de ses propres actions. Il a écrit dans son cœur « Fais ce qui t'est salutaire et n'est nuisible à personne ». Si je sens qu'il m'est bon de mourir, je résiste à son ordre en m'opiniâtrant à vivre, car, en me rendant la mort désirable, il me prescrit de la chercher. Bomstone, j'en appelle à votre sagesse et à votre candeur. Quelle maxime plus certaine la raison peut-elle déduire de la religion sur la mort volontaire? Si les chrétiens en ont établi d'opposés, ils ne les ont tirés ni des principes de leur religion, ni de sa règle unique, qui est l'écriture, mais seulement des philosophes païens. Lactance et Augustin, qui les premiers avancèrent cette nouvelle doctrine dont Jésus-Christ ni les apôtres n'avaient pas dit un mot, ne s'appuyèrent que sur le raisonnement du Phédon, que j'ai déjà combattu, de sorte que les fidèles, qui croient suivre en cela l'autorité de l'Évangile, ne suivent que celle de Platon. En effet, où verra-t-on dans la Bible entière une loi contre le suicide, ou même une simple improbation? Et n'est-il pas bien étrange que dans les exemples de gens qui se sont donné la mort, on n'y trouve pas un seul mot de blâme contre aucun de ces exemples. Il y a plus. Celui de Samson est autorisé par un prodige qui le venge de ses ennemis. Ce miracle se serait-il fait pour justifier un crime? Et cet homme qui perdit sa force pour s'être laissé séduire par une femme, l'eût-il recouvré pour commettre un forfait authentique, comme si Dieu lui-même eût voulu tromper les hommes? Tu ne tueras point, dit le décalogue. Que s'ensuit-il de là? Si ce commandement doit être pris à la lettre, il ne faut tuer ni les malfaiteurs ni les ennemis. Et Moïse, qui fit tant mourir de gens, entendait fort mal son propre précepte. S'il y a quelques exceptions, la première est certainement en faveur de la mort volontaire, parce qu'elle est exempte de violence et d'injustice, les deux seules considérations qui puissent rendre l'homicide criminel, et que la nature y a mis d'ailleurs un suffisant obstacle. Mais que disent-ils encore? Souffrez patiemment les maux que Dieu vous envoie. faites-vous un mérite de vos peines. Appliquez ainsi les maximes du christianisme, que c'est mal en saisir l'esprit. L'homme est sujet à mille maux, sa vie est un tissu de misère, et il ne semble naître que pour souffrir. De ces maux, ce qu'il peut éviter, la raison veut qu'il les évite. Et la religion, qui n'est jamais contraire à la raison, l'approuve. Mais que leur somme est petite auprès de ceux qu'il est forcé de souffrir malgré lui. C'est de ceci qu'un Dieu clément permet aux hommes de se faire un mérite. Il accepte, en hommage volontaire, le tribut forcé qu'il nous impose, et marque au profit de l'autre vie la résignation dans celle-ci. La véritable pénitence de l'homme lui est imposée par la nature. S'il endure patiemment tout ce qu'il est contraint d'endurer, il a fait à cet égard tout ce que Dieu lui demande. Et si quelqu'un montre assez d'orgueil pour vouloir faire davantage, c'est un fou qu'il faut enfermer, ou un fourbe qu'il faut punir. Fuyons donc sans scrupule tous les maux que nous pouvons fuir. Il ne nous en restera que trop à souffrir encore. Délivrons-nous sans remords de la vie même, aussitôt qu'elle est un mal pour nous, puisqu'il dépend de nous de le faire, et qu'en cela nous n'offensons ni Dieu ni les hommes. S'il faut un sacrifice à l'être suprême, n'est-ce rien que de mourir? Offrons à Dieu la mort qu'il nous impose par la voie de la raison, et versons paisiblement dans son sein notre âme qu'il redemande. Tels sont les préceptes généraux que le bon sens dicte à tous les hommes, et que la religion autorise. Revenons à nous. Vous avez daigné m'ouvrir votre cœur, je connais vos peines. Vous ne souffrez pas moins que moi. Vos maux sont sans remède, ainsi que les miens. Et d'autant plus sans remède, que les lois de l'honneur sont plus immuables que celles de la fortune. Vous les supportez, je l'avoue, avec fermeté. La vertu vous soutient. Un pas de plus, elle vous dégage. Vous me pressez de souffrir. Milord, j'ose vous presser de terminer vos souffrances, et je vous laisse à juger qui de nous est le plus cher à l'autre. Que tardons-nous à faire un pas qu'il faut toujours faire? Attendrons-nous que la vieillesse et les ans nous attachent bassement à la vie, après nous en avoir ôté les charmes, et que nous traînions avec effort, ignominie et douleur, un corps infirme et cassé? Nous sommes dans l'âge où la vigueur de l'âme la dépasse aisément de ses entraves, et où l'homme sait encore mourir. Plus tard, il se laisse en gémissant arracher à la vie. Profitons d'un temps où l'ennui de vivre nous rend la mort désirable. Craignons qu'elle ne vienne avec ses horreurs au moment où nous n'en voudrons plus. Je m'en souviens, il fut un instant où je ne demandais qu'une heure au ciel, et où je serais mort désespéré si je ne l'eusse obtenu. Ah, qu'on a de peine à briser les nœuds qui lient nos cœurs à la terre, et qu'il est sage de la quitter aussitôt qu'ils sont rompus. Je le sens, Milord, nous sommes dignes tous deux d'une habitation plus pure. La vertu nous la montre, et le sort nous invite à la chercher. Que l'amitié qui nous joint nous unisse encore à notre dernière heure. Oh, quelle volupté pour deux vrais amis de finir leurs jours volontairement dans les bras l'un de l'autre, de confondre leurs derniers soupirs, d'exhaler à la fois les deux moitiés de leur âme. Quelle douleur, quel regret peut empoisonner leurs derniers instants. Que quittent-ils en sortant du monde? Ils s'en vont ensemble, ils ne quittent rien.
Lettre 22. Réponse de Milord Édouard à Saint-Preux.
Jeune homme, un aveugle transporte égard. Sois plus discret, ne conseille point en demandant conseil. J'ai connu d'autres maux que les tiens. J'ai l'âme ferme. Je suis anglais, je sais mourir, car je sais vivre, souffrir en homme. J'ai vu la mort de près, et la regarde avec trop d'indifférence pour l'aller chercher. Parlons de toi. Il est vrai, tu m'étais nécessaire. Mon âme avait besoin de la tienne. Tes soins pouvaient m'être utiles. Ta raison pouvait m'éclairer dans la plus importante affaire de ma vie. Si je ne m'en sers point, à qui t'en prends-tu? Où est-elle? Qu'est-elle devenue? Que peux-tu faire? À quoi es-tu bon dans l'état où te voilà? Quel service puis-je espérer de toi? Une douleur insensée te rend stupide et impitoyable. Tu n'es pas un homme, tu n'es rien. Et si je ne regardais à ce que tu peux être, tel que tu es, je ne vois rien dans le monde au-dessous de toi. Je n'en veux pour preuve que ta lettre même. Autrefois, je trouvais en toi du sens, de la vérité. Tes sentiments étaient droits, tu pensais juste, et je ne t'aimais pas seulement par goût, mais par choix, comme un moyen de plus pour moi de cultiver la sagesse. Qu'ai-je trouvé maintenant dans les raisonnements de cette lettre dont tu parais si content? Un misérable et perpétuel sophisme, qui, dans l'égarement de ta raison, marque celui de ton cœur, et que je ne daignerais pas même relever si je n'avais pitié de ton délire. Pour renverser tout cela d'un mot, je ne veux te demander qu'une seule chose. Toi qui crois Dieu existant, l'âme immortelle et la liberté de l'homme, tu ne penses pas sans doute qu'un être intelligent reçoive un corps et soit placé sur la terre, au hasard seulement pour vivre, souffrir et mourir? Il y a bien peut-être à la vie humaine un but, une fin, un objet moral. Je te prie de me répondre clairement sur ce point, après quoi nous reprendrons pied à pied ta lettre, et tu rougiras de l'avoir écrite. Mais laissons les maximes générales, dont on fait souvent beaucoup de bruit sans jamais en suivre aucune, car il se trouve toujours dans l'application quelques conditions particulières qui changent tellement l'état des choses que chacun se croit dispensé d'obéir à la règle qu'il prescrit aux autres. Et l'on sait bien que tout homme qui pose des maximes générales entend qu'elles obligent tout le monde, excepté lui. Encore un coup, parlons de toi. Il t'est donc permis, selon toi, de cesser de vivre? La preuve en est singulière, c'est que tu as envie de mourir. Voilà certes un argument fort commode pour les scélérats. Ils doivent être bien obligés des armes que tu leur fournis. Il n'y aura plus de forfait qu'ils ne justifient par la tentation de les commettre. Et dès que la violence de la passion l'emportera sur l'horreur du crime, dans le désir de mal faire, ils en trouveront aussi le droit. Il t'est donc permis de cesser de vivre. Je voudrais bien savoir si tu as commencé. Quoi ? Fus-tu placé sur la terre pour n'y rien faire ? Le ciel ne t'imposa-t-il point avec la vie une tâche pour la remplir ? Si tu as fait ta journée avant le soir, repose-toi le reste du jour, tu le peux. Mais voyons ton ouvrage. Quelle réponse tiens-tu prête au juge suprême qui te demandera compte de ton temps ? Parle, que lui diras-tu ? J'ai séduit une fille honnête. J'abandonne un ami dans ses chagrins. Malheureux ! Trouve-moi ce juste qui se vante d'avoir assez vécu, que j'apprenne de lui comment il faut avoir porté la vie pour être en droit de la quitter. Tu comptes les maux de l'humanité. Tu ne rougis pas d'épuiser des lieux communs 100 fois rebattus, et tu dis « La vie est un mal ». Mais regarde, cherche dans l'ordre des choses si tu y trouves quelque bien qui ne soit point mêlé de maux. Est-ce donc à dire qu'il n'y ait aucun bien dans l'univers ? Et peux-tu confondre ce qui est mal par sa nature avec ce qui ne souffre le mal que par accident ? Tu l'as dit toi-même, la vie passive de l'homme n'est rien, et ne regarde qu'un corps dont il sera bientôt délivré. Mais sa vie active et morale, qui doit influer sur tout son être, consiste dans l'exercice de sa volonté. La vie est un mal pour le méchant qui prospère, et un bien pour l'honnête homme infortuné, car ce n'est pas une modification passagère, mais son rapport avec son objet qui la rend bonne ou mauvaise. Quelles sont enfin ces douleurs si cruelles qui te forcent de la quitter ? Penses-tu que je n'ai pas démêlé sous ta feinte impartialité, dans le dénombrement de cette vie, la honte de parler des tiens ? Crois-moi, n'abandonne pas à la fois toutes tes vertus, garde au moins ton ancienne franchise, et dis ouvertement à ton ami « J'ai perdu l'espoir de corrompre une honnête femme, me voilà forcé d'être homme de bien, j'aime mieux mourir. » Tu t'ennuies de vivre et tu dis « la vie est un mal ». Tôt ou tard tu seras consolé et tu diras « la vie est un bien ». Tu diras plus vrai sans mieux raisonner, car rien n'aura changé que toi. Change donc dès aujourd'hui, et puisque c'est dans la mauvaise disposition de ton âme qu'est tout le mal, corrige tes affections déréglées et ne brûle pas ta maison pour n'avoir pas la peine de la ranger. « Je souffre, me dis-tu, dépend-il de moi de ne pas souffrir ?» D'abord, c'est changer l'état de la question, car il ne s'agit pas de savoir si tu souffres, mais si c'est un mal pour toi de vivre. Passons. Tu souffres, tu dois chercher à ne plus souffrir. Voyons s'il est besoin de mourir pour cela. Considère un moment le progrès naturel des maux de l'âme directement opposés au progrès des maux du corps, comme les deux substances sont opposées par leur nature. Ceux-ci s'invétèrent, s'empirent en vieillissant et détruisent enfin cette machine mortelle. Les autres, au contraire, altérations externes et passagères d'un être immortel et simple, s'effacent insensiblement et le laissent dans sa forme originelle que rien ne saurait changer. La tristesse, l'ennui, les regrets, le désespoir sont des douleurs peu durables qui ne s'enracinent jamais dans l'âme. Et l'expérience dément toujours ce sentiment d'amertume qui nous fait regarder nos peines comme éternelles. Je dirais plus, je ne puis croire que les vices qui nous corrompent nous soient plus inhérents que nos chagrins. Non seulement je pense qu'ils périssent avec le corps qui les occasionne, mais je ne doute pas qu'une plus longue vie ne puisse suffire pour corriger les hommes, et que plusieurs siècles de jeunesse ne nous apprissent qu'il n'y a rien de meilleur que la vertu. Quoi qu'il en soit, puisque la plupart de nos maux physiques ne font qu'augmenter sans cesse, de violentes douleurs du corps, quand elles sont incurables, peuvent autoriser un homme à disposer de lui, car toutes ses facultés étant aliénées par la douleur, et le mal étant sans remède, il n'a plus l'usage ni de sa volonté ni de sa raison. Il cesse d'être homme avant de mourir, et ne fait, en sautant la vie, qu'achever de quitter un corps qui l'embarrasse et où son âme n'est déjà plus. Mais il n'en est pas ainsi des douleurs de l'âme, qui, pour vives qu'elles soient, portent toujours leur remède avec elles. En effet, qu'est-ce qui rend un mal quelconque intolérable? C'est sa durée. Les opérations de la chirurgie sont communément beaucoup plus cruelles que les souffrances qu'elles guérissent, mais la douleur du mal est permanente, celle de l'opération passagère, et l'on préfère celle-ci. Qu'est-il donc besoin d'opérations pour des douleurs qu'éteint leur propre durée, qui seules les rendraient insupportables? Est-il raisonnable d'appliquer d'aussi violents remèdes aux maux qui s'effacent d'eux-mêmes? Pour qui fait cas de la constance et n'estime les ans que le peu qu'ils valent, de deux moyens de se délivrer des mêmes souffrances, lequel doit être préféré, de la mort ou du temps? Attends et tu seras guéri. Que demandes-tu davantage?
Ah, c'est ce qui redouble mes peines de songer qu'elles finiront. Vain sophisme de la douleur, bon mot sans raison, sans justesse et peut-être sans bonne foi. Quel absurde motif de désespoir que l'espoir de terminer sa misère. Même en supposant ce bizarre sentiment, qui n'aimerait mieux aigrir un moment la douleur présente par l'assurance de la voir finir, comme on scarifie une plaie pour la faire cicatriser? Et quand la douleur aurait un charme qui nous ferait aimer à souffrir, s'en priver en sautant la vie, n'est-ce pas faire à l'instant même tout ce qu'on craint de l'avenir? Pense-y bien, jeune homme, que sont 10, 20, 30 ans pour un être immortel? La peine et le plaisir passent comme une ombre. La vie s'écoule en un instant, elle n'est rien par elle-même, son prix dépend de son emploi. Le bien seul qu'on a fait demeure, et c'est par lui qu'elle est quelque chose. Ne dis donc plus que c'est un mal pour toi de vivre, puisqu'il dépend de toi seul que ce soit un bien, et que si c'est un mal d'avoir vécu, c'est une raison de plus pour vivre encore. Ne dis pas non plus qu'il t'est permis de mourir, car autant voudrait dire qu'il t'est permis de n'être pas homme, qu'il t'est permis de te révolter contre l'auteur de ton être, et de tromper ta destination. Mais en ajoutant que ta mort ne fait de mal à personne, songes-tu que c'est à ton ami que tu l'oses dire? Ta mort ne fait de mal à personne. J'entends, mourir à nos dépens ne t'importe guère, tu comptes pour rien nos regrets. Je ne te parle plus des droits de l'amitié que tu méprises. N'en est-il point de plus cher encore qui t'oblige à te conserver? S'il est une personne au monde qui t'est assez aimée pour ne vouloir pas te survivre, et à qui ton bonheur manque pour être heureuse, penses-tu ne rien lui devoir? Tes funestes projets exécutés ne troubleront-ils point la paix d'une âme rendue avec tant de peine à sa première innocence? Ne crains-tu point de rouvrir dans ce cœur trop tendre des blessures mal refermées? Ne crains-tu point que ta perte n'en entraîne une autre encore plus cruelle, en ôtant au monde et à la vertu leur plus digne ornement? Et si elle te survit, ne crains-tu point d'exciter dans son sein le remords, plus pesant à supporter que la vie? Ingrat ami, amant sans délicatesse, seras-tu toujours occupé de toi-même? Ne songeras-tu jamais qu'à tes peines? N'es-tu point sensible au bonheur de ce qui te fut cher? Et ne saurais-tu vivre pour celle qui voulut mourir avec toi? Tu parles des devoirs du magistrat et du père de famille. Et parce qu'ils ne te sont pas imposés, tu te crois affranchi de tout. Et la société à qui tu dois ta conservation, tes talents, tes lumières, la patrie à qui tu appartiens, les malheureux qui ont besoin de toi, leur dois-tu rien? Oh, l'exact dénombrement que tu fais! Parmi les devoirs que tu comptes, tu n'oublies que ceux d'homme et de citoyen. Où est ce vertueux patriote qui refuse de vendre son sang à un prince étranger parce qu'il ne doit le verser que pour son pays et qui veut maintenant le répandre en désespéré contre l'expresse défense des lois? Les lois, jeune homme! Le sage les méprise-t-il? Socrate innocent, par respect pour elles, ne voulut pas sortir de prison. Tu ne balances point à les violer pour sortir injustement de la vie, et tu demandes « Quel mal fais-je ?» Tu veux t'autoriser par des exemples, tu m'oses nommer des Romains, toi des Romains. Il t'appartient bien d'oser prononcer ces noms illustres. Dis-moi, Brutus mourut-il en amant désespéré? Hécaton déchira-t-il ses entrailles pour sa maîtresse? Homme petit et faible, qui est-il entre Caton et toi? Montre-moi la mesure commune de cette âme sublime et de la tienne. Téméraire, ah, tais-toi, je crains de profaner son nom par son apologie. À ce nom saint et auguste, tout ami de la vertu doit mettre le front dans la poussière et honorer en silence la mémoire du plus grand des hommes. Que tes exemples sont mal choisis! Et que tu juges bassement les Romains si tu penses qu'ils se crussent en droit de sauter la vie aussitôt qu'elle leur était à charge. Regarde les beaux temps de la République, et cherche si tu y verras un seul citoyen vertueux se délivrer ainsi du poids de ses devoirs, même après les plus cruelles infortunes. Régulus, retournant à Carthage, prévint-il par sa mort les tourments qu'il attendait? Que n'eût point donné Postumius pour que cette ressource lui fût permise aux fourches caudines? Quel effort de courage le Sénat même n'admira-t-il pas dans le consul Varron pour avoir pu survivre à sa défaite? Par quelle raison tant de généraux se laissèrent-ils volontairement livrer aux ennemis, eux à qui l'ignominie était si cruelle et à qui il en coûtait si peu de mourir? C'est qu'ils devaient à la patrie leur sang, leur vie et leur dernier soupir, et que la honte ni les revers ne pouvaient les détourner de ce devoir sacré. Mais quand les lois furent anéanties, et que l'État fut en proie à des tyrans, les citoyens reprirent leur liberté naturelle et leurs droits sur eux-mêmes. Quand Rome ne fut plus, il fut permis à des Romains de cesser d'être. Ils avaient rempli leurs fonctions sur la terre, ils n'avaient plus de patrie, ils étaient en droit de disposer d'eux et de se rendre à eux-mêmes la liberté qu'ils ne pouvaient plus rendre à leur pays. Après avoir employé leur vie à servir Rome expirante et à combattre pour les lois, ils moururent vertueux et grands comme ils avaient vécu. Et leur mort fut encore un tribut à la gloire du nom romain, afin qu'on ne vît dans aucun d'eux le spectacle indigne de vrais citoyens servant un usurpateur. Mais toi, qui es-tu? Qu'as-tu fait? Crois-tu t'excuser sur ton obscurité? Ta faiblesse t'exempte-t-elle de tes devoirs? Et pour n'avoir ni nom ni rang dans ta patrie, en es-tu moins soumis à ses lois? Il te sied bien d'oser parler de mourir, tandis que tu dois l'usage de ta vie à tes semblables. Apprends qu'une mort telle que tu la médites est honteuse et furtive, c'est un vol fait au genre humain. Avant de le quitter, rends-lui ce qu'il a fait pour toi. Mais je ne tiens à rien, je suis inutile au monde. Philosophe d'un jour, ignores-tu que tu ne saurais faire un pas sur la terre sans y trouver quelque devoir à remplir, et que tout homme est utile à l'humanité par cela seul qu'il existe? Écoute-moi, jeune insensé, tu m'es cher, j'ai pitié de tes erreurs. S'il te reste au fond du cœur le moindre sentiment de vertu, viens, que je t'apprenne à aimer la vie. Chaque fois que tu seras tenté d'en sortir, dis en toi-même, que je fasse encore une bonne action avant que de mourir. Puis va chercher quelque indigent à secourir, quelque infortuné à consoler, quelque opprimé à défendre. Rapproche de moi les malheureux que mon abord intimide. Ne crains d'abuser ni de ma bourse, ni de mon crédit. Prends, épuise mes biens, fais-moi riche. Si cette considération te retient aujourd'hui, elle te retiendra encore demain, après-demain, toute ta vie. Si elle ne te retient pas, meurs. Tu n'es qu'un méchant.
Lettre 23 de Milord Édouard à Saint-Preux.
Je ne pourrai, mon cher, vous embrasser aujourd'hui comme je l'avais espéré, et l'on me retient encore pour 2 jours à Kensington. Le train de la cour est qu'on y travaille beaucoup sans rien faire,
et que toutes les affaires s'y succèdent sans s'achever. Celle qui m'arrête ici depuis 8 jours ne demandait pas 2 heures, mais comme la plus importante affaire des ministres est d'avoir toujours l'air affairé, ils perdent plus de temps à me remettre qu'ils n'en auraient mis à m'expédier. Mon impatience, un peu trop visible, n'abrège pas ces délais. Vous savez que la cour ne me convient guère. Elle m'est encore plus insupportable depuis que nous vivons ensemble, et j'aime 100 fois mieux partager votre mélancolie que l'ennui des valets qui peuplent ce pays. Cependant, en causant avec ces empressés fainéants, il m'est venu une idée qui vous regarde, et sur laquelle je n'attends que votre aveu pour disposer de vous. Je vois qu'en combattant vos peines, vous souffrez à la fois du mal et de la résistance. Si vous voulez vivre et guérir, c'est moins parce que l'honneur et la raison l'exigent que pour complaire à vos amis. Mon cher, ce n'est pas assez. Il faut reprendre le goût de la vie pour en bien remplir les devoirs, et avec tant d'indifférence pour toute chose, on ne réussit jamais à rien. Nous avons beau faire l'un et l'autre, la raison seule ne vous rendra pas la raison. Il faut qu'une multitude d'objets nouveaux et frappants vous arrache une partie de l'attention que votre cœur ne donne qu'à celui qui l'occupe. Il faut pour vous rendre à vous-même que vous sortiez d'au-dedans de vous, et ce n'est que dans l'agitation d'une vie active que vous pouvez retrouver le repos. Il se présente pour cette épreuve une occasion qui n'est pas à dédaigner. Il est question d'une entreprise grande, belle, et telle que bien des âges n'en voient pas de semblable. Il dépend de vous d'en être le témoin et d'y concourir. Vous verrez le plus grand spectacle qui puisse frapper les yeux des hommes. Votre goût pour l'observation trouvera de quoi se contenter. Vos fonctions seront honorables, elles n'exigeront, avec les talents que vous possédez, que du courage et de la santé. Vous y trouverez plus de périls que de gênes, elles ne vous en conviendront que mieux. Enfin, votre engagement ne sera pas fort long. Je ne puis vous en dire aujourd'hui davantage, parce que ce projet sur le point d'éclore est pourtant encore un secret dont je ne suis pas le maître. J'ajouterai seulement que si vous négligez cette heureuse et rare occasion, vous ne la retrouverez probablement jamais, et la regretterez peut-être toute votre vie. J'ai donné ordre à mon coureur, qui vous porte cette lettre, de vous chercher où que vous soyez, et de ne point revenir sans votre réponse, car elle presse, et je dois donner la mienne avant de partir d'ici.
Lettre 24. Réponse de Saint-Preux à Milord Édouard.
Faites, Milord. Ordonnez de moi. Vous ne serez désavoué sur rien. En attendant que je mérite de vous servir, au moins que je vous obéisse.
Lettre 25 de Milord Édouard à Saint-Preux.
Puisque vous approuvez l'idée qui m'est venue, je ne veux pas tarder un moment à vous marquer que tout vient d'être conclu et à vous expliquer de quoi il s'agit, selon la permission que j'en ai reçue en répondant de vous. Vous savez qu'on vient d'armer à Plymouth une escadre de 5 vaisseaux de guerre et qu'elle est prête à mettre à la voile. Celui qui doit la commander est M. George Hansen, habile et vaillant officier, mon ancien ami. Elle est destinée pour la mer du Sud, où elle doit se rendre par le détroit de Lemaire et en revenir par les Indes orientales. Ainsi, vous voyez qu'il n'est pas question de moins que du tour du monde, expédition qu'on estime devoir durer environ 3 ans. J'aurais pu vous faire inscrire comme volontaire, mais pour vous donner plus de considération dans l'équipage, j'y ai fait ajouter un titre, et vous êtes couché sur l'état en qualité d'ingénieur des troupes de débarquement. Ce qui vous convient d'autant mieux que le génie étant votre première destination, je sais que vous l'avez appris dès votre enfance. Je compte retourner demain à Londres et vous présenter à M. Hansen dans 2 jours. En attendant, songez à votre équipage et à vous pourvoir d'instruments et de livres, car l'embarquement est prêt et l'on n'attend plus que l'ordre du départ. Mon cher ami, j'espère que Dieu vous ramènera sain de corps et de cœur de ce long voyage, et qu'à votre retour, nous nous rejoindrons pour ne nous séparer jamais.
Lettre 26 de Saint-Preux à Madame d'Orbe.
Je pars, chère et charmante cousine, pour faire le tour du globe. Je vais chercher dans un autre hémisphère la paix dont je n'ai pu jouir dans celui-ci. Insensé que je suis,
Je vais errer dans l'univers sans trouver un lieu pour y reposer mon cœur. Je vais chercher un asile au monde où je puisse être loin de vous. Mais il faut respecter les volontés d'un ami, d'un bienfaiteur, d'un père. Sans espérer de guérir, il faut au moins le vouloir, puisque Julie et la vertu l'ordonnent. Dans 3 heures, je vais être à la merci des flots. Dans 3 jours, je ne verrai plus l'Europe. Dans 3 mois, je serai dans des mers inconnues où règnent d'éternels orages. Dans 3 ans, peut-être, qu'il serait affreux de ne plus vous voir. Hélas, le plus grand péril est au fond de mon cœur, car, quoi qu'il en soit de mon sort, je l'ai résolu, je le jure, vous me verrez digne de paraître à vos yeux, ou vous ne me reverrez jamais. Milord Édouard, qui retourne à Rome, vous remettra cette lettre en passant, et vous fera le détail de ce qui me regarde. Vous connaissez mon âme, et vous devinerez aisément ce qu'il ne vous dira pas. Vous connûtes la mienne, jugez aussi de ce que je ne vous dis pas moi-même. Ah, Milord, vos yeux les reverront. Votre amie a donc, ainsi que vous, le bonheur d'être mère. Elle devait donc l'être. Ciel inexorable. Oh, ma mère, pourquoi vous donna-t-il un fils dans sa colère? Il faut finir, je le sens. Adieu, charmante cousine. Adieu, beautés incomparables. Adieu, pures et célestes âmes. Adieu, tendres et inséparables amis. Femmes uniques sur la terre. Chacune de vous est le seul objet digne du cœur de l'autre. Faites mutuellement votre bonheur. Daignez vous rappeler quelquefois la mémoire d'un infortuné qui n'existait que pour partager entre vous tous les sentiments de son âme et qui cessa de vivre au moment qu'il s'éloigna de vous. Si jamais... J'entends le signal et le cri des matelots. Je vois fraîchir le vent et déployer les voiles. Il faut monter à bord, il faut partir. Mer vaste, mer immense, qui doit peut-être m'engloutir dans ton sein, puissé-je retrouver sur tes flots le calme qui fuit mon cœur agité.
Fin de la 3e partie. Donneur de voix ayant participé à ce projet collectif. Saint-Preux, Aymeric. Julie, Pauline Pusciano. Claire, Domi. Milord Édouard, Vincent de l'Épine. Baron d'Étanges, Gustave. Coordination, Cocotte.